Apprendre à gérer son stress dès l'âge de 9 ans, c'est possible et ça permet de mieux faire face aux défis du quotidien, de l'avenir dans la vie adulte. On en parle davantage avec Lorraine Millette de ce programme Passeport qui existe maintenant depuis quelques années. Lorraine Millette, coordonnatrice des programmes au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie de l'UQAM. Merci d'être là. Bonjour.
Bonjour, merci.
On en parlait avec Christiane Campagna, donc d'aller chercher les jeunes et ils sont très touchés par les problèmes de santé mentale. J'ai une statistique ici sous les yeux. 22 % des 13-18 ans ont déjà pensé au suicide dans la dernière année. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça?
Bien, je n'ai pas tout à fait la réponse qu'est-ce qui explique ça nécessairement. Cependant, ce qui nous a interpellés, selon différentes études qui ont eu lieu, c'est le manque de stratégie.
Mm-hmm.
En fait, c'est les moyens que les enfants, c'est plus limité. Ils vont souvent utiliser les mêmes pour réaliser que ça ne fonctionne pas. Et dans certains cas, ben, malheureusement, effectivement, ils vont se tourner vers le suicide en étant une stratégie qui pourrait enfin arrêter la souffrance.
Oui, stratégie en fait qui est plutôt définitive et on le dit à un problème qui est éphémère. On va y revenir à ces stratégies d'adaptation. Avant, je veux entendre parler davantage de ce programme Passeport qui existe depuis 2011, c'est ça à peu près?
Oui, en fait, on a débuté en 2009-2010 au niveau du développement du programme. Donc, ça fait quand même un moment qu'on y travaille. Il y a eu un travail avec le milieu des allers-retours, mais pour le déploiement, qu'on peut dire, « at large », oui, effectivement, depuis 2011-2012, on y travaille.
Ça venait de quel constat chez vous?
Bien, en fait, le programme vient ou a été inspiré par celui où on déploie aux crises depuis 2004, les amis d'IPI. Et puis, suite à ce programme-là, les enseignants ont trouvé intéressant de vouloir consolider les acquis dont les enfants s'étaient appropriés avec les amis d'IPI, dont ce sont les enfants de 6 et 7 ans. Et puis, ils se disaient, bien, puisque ces prémices-là fonctionnent bien et puis qu'ils ont vu des changements au niveau du comportement, bien, il faudrait peut-être continuer à travailler avec les enfants, mais un peu plus vieux, toujours au primaire.
Mm-hmm.
Donc, ça a été suite à la demande du milieu qui nous ont dit, écoutez, continuer, trouver quelque chose qui va aider les enfants et puis qu'on puisse consolider ces acquis-là.
C'est quoi Amis d'IPI, juste pour qu'on vous suive bien?
Oui, le programme Les Amis d'IPI, c'est un programme qui vise les mêmes objectifs, dont de travailler sur les stratégies d'adaptation. Cependant, c'est visé pour les enfants de 6-7 ans.
Ah, voilà.
Alors, évidemment, c'est des programmes où... le programme est visé pour que l'enfant puisse avoir des activités qui vont lui permettre de travailler et d'élargir ses...
Oui.
Les moyens.
Et 9 à 11 ans, c'était une période idéale pour préparer le jeune à la période de l'adolescence et lui donner déjà à ce moment-là ses stratégies d'adaptation.
Effectivement, quand nous avons débuté le développement et l'implantation du programme, on n'était pas trop certain encore à cette époque-là, en 2009-2010, où le programme devrait s'inscrire exactement. Alors, en faisant le développement et en faisant l'implantation particulièrement et avec les évaluations qu'on a faites entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des changements significatifs avec avec l'ensemble du programme, avec les enfants de 9 à 11 ans. Alors, ce que ça voulait dire, malgré que de la troisième année jusqu'à la sixième année, les enfants aimaient bien le programme, on avait quand même des impacts, mais l'ensemble du programme avait un impact plus important avec les enfants de 9 à 11 ans. Alors, on s'est dit, nous allons à ce moment-là continuer et finalement viser davantage ces enfants-là.
Oui. Maintenant, en quoi consiste concrètement le programme Passeport?
Eh bien, ce sont des activités ludiques qui sont animées dans les classes par les enseignants. Il y a différents modèles, mais le modèle que nous avons évalué, qui fonctionnait le mieux et qui avait un impact beaucoup plus important avec les enfants, était le modèle où c'est l'enseignant qui l'anime. Et c'est des activités très simples, des activités où les enfants sont capables de se reconnaître dans le quotidien. Et pour susciter leur intérêt, bien, c'est par l'entremise des bandes dessinées thématiques à laquelle les enfants vont soit faire des mises en situation, ils ont des jeux de rôle, ils ont un grand jeu géant. Et l'objectif, c'est de travailler collectivement et non pas en compétition à trouver des stratégies, à composer, par exemple, avec une mise en situation qui est très collée à leur réalité. Donc, un exemple, il y a une activité où l'enfant va piger une mise en situation et ça peut être, bon, tu as travaillé très fort pour faire partie d'une équipe de hockey, cependant, tu n'as pas été choisi. Comment te sens-tu?
Mm-hmm.
Bien là, l'enfant, il faut qu'il prenne quelques minutes à réfléchir, ben, plutôt des secondes, à réfléchir sur le type d'émotion qu'il vivrait et par la suite, collectivement, bien, quelle stratégie qu'on pourrait mettre en place pour s'aider à soit à se sentir mieux ou si on peut changer la situation, mais toujours en s'assurant à ne pas faire de tort à personne et ça se comprend soi-même.
Et surtout, oui, c'est ça, surtout à soi-même.
Oui.
Il y a différentes thématiques, les émotions, vous en avez parlé,
voilà.
Les relations avec les autres, l'entraide, ça semble assez important.
Tout à fait.
Les situations difficiles. Il y a aussi justice, équité, égalité.
Oui.
Ça pourrait ressembler à quoi de travailler sur cette thématique-là?
En fait, on travaille sur trois fronts. Le premier, ce sont les injustices que les enfants perçoivent dans leur environnement. Le frère qui se couche plus tard, faire une activité que lui n'a pas le droit de faire, mais que, par exemple, ses amis peuvent faire. Pour eux, ce sont des injustices.
Ouais, ouais.
On aide les enfants aussi à départir un peu une injustice puis une inégalité ou une égalité, dans le sens que souvent, ils vont percevoir une injustice, mais c'est simplement une inégalité.
Oui.
Donc, on doit aider cette personne-là parce qu'elle a une problématique que lui n'a pas.
Oui.
Mais ce qu'on fait surtout, c'est d'aider l'enfant à réaliser que oui, c'est une injustice, c'est peut-être juste une inégalité. Cependant, si c'est ce que tu ressens, bien, il faut trouver des stratégies pour composer avec ça. Ça, c'est une chose. La deuxième, on va parler maintenant de l'intimidation.
Oui.
On va aider l'enseignante avec ce qu'ils ont déjà en protocole à l'école, mais d'aider les enfants à mieux reconnaître qu'est-ce que c'est l'intimidation. La définition, ils les connaissent toutes, hein? La cyber-intimidation, l'intimidation verbale, ainsi de suite, ils les connaissent toutes. Mais ils ont des fois un peu une difficulté à associer une situation avec justement la cyber-intimidation. Quand ils voient sur une carte comme... Ça veut dire de prendre, par exemple, t'es choqué contre une amie, puis de le mettre sur Facebook, qu'elle n'est pas gentille, puis des choses du genre. Ils ne réalisent pas à ce moment-là, mais ça s'appelle de la cyber-intimidation.
Ouais. J'entends que les enseignants ont épousé cette cause-là aussi. Ils vous ont suivi. Ils ont dû, j'imagine, avoir une formation.
Et voilà, effectivement. Ça, c'est primordial. Le programme vise beaucoup sur le fait que les enfants ont le savoir et que l'enseignant devient simplement le facilitateur.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment crucial parce que un enfant, pour qu'il puisse réaliser qu'il y a des stratégies, faut dans un premier temps qu'on l'aide à se conscientiser qu'il y en a. Dans un premier temps, comment ça se manifeste dans son corps quand il vit un stress, mais surtout que oui, il y en a des moyens. Mais si nous, en tant qu'adultes, on se trouve à lui donner les moyens, bien, il réalise pas qu'il y en a déjà d'avance. Alors, quand on fait la formation, je dois avouer que je tape beaucoup sur le clou à dire... Vous êtes que des facilitants. Vous n'avez plus le savoir. Les enfants ont le savoir.
Ouais.
Fait qu'effectivement, ça a un gros enjeu.
Et ce savoir-là, pour les jeunes, de savoir qu'ils le possèdent, c'est une grande richesse, c'est une grande force. Et ça accentue la confiance en soi.
Tout à fait. Et ça travaille sur l'estime de soi aussi, veut pas.
Ouais.
Hein? Quand ils se retrouvent dans un groupe, il y a des enfants, des fois, qui sont un peu plus gênés, que des fois, là, ils vont parler de certaines stratégies. Et puis là, tout d'un coup, ils se rendent compte, « Ah bien, je suis pas toute seule à utiliser ça. » où j'ai apporté quelque chose de nouveau.
Depuis ces dernières années, vous avez probablement pu constater les effets bénéfiques pour ces jeunes. Est-ce que vous avez certains exemples, Lorraine Miette?
Oui, il y a des exemples où j'ai des enseignantes m'ont mentionné qui ont trouvé que le dynamique de la classe avait changé, qu'il semblait y avoir un peu plus d'entraide. Il semblait aussi, il y a toujours des conflits. Notre programme, moi, j'y crois beaucoup, puis il est très bien.
Et ça, pour toute la vie.
Et voilà, mais il va y avoir des conflits. Mais j'ai des enseignantes qui m'ont dit qu'il y a des enfants qui se sont référés aux deux règles. Bon, ben, si je trouve une stratégie, il faut que ça rencontre les deux règles. Par eux-mêmes, ça leur donne un pouvoir d'agir. C'est ce qu'ils ont trouvé qui était particulièrement aidant. Avec les affiches qu'on donne aux enseignants, la formation qu'on leur donne aussi, ça les outille à donner le pouvoir d'agir aux enfants. C'est à ce niveau-là qu'ils ont vu des impacts dans leur classe.
Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire entre 2011 et 2014, le programme Passeport a été offert à 2131 enfants, 4000 enfants en 2017, Québec, Ontario, Manitoba. Il y a un projet pilote au Brésil.
Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Et eux, ce qu'ils ont fait, le projet pilote a eu lieu avec des gens dans l'adolescence. Mm-hmm. Alors, on parlait même des jeunes de 18 ans. Et l'impact que ça a eu, ce programme-là, avec ce milieu-là, était incroyable, dont, entre autres, au niveau de l'automutilation.
Oh! Mm-hmm.
Il y a eu, dans une classe, en particulier une jeune fille qui s'automutilait, et quand il y a eu la présentation des deux règles, par la suite, elle a été capable d'aller demander de l'aide parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle se faisait du tort à elle-même. Oui. Ça a été tellement fort qu'ils ont fait un... Une des stations de télévision a mm-hmm. rapporté ça
un reportage,
parce que ça avait eu un impact si important.
Mm-hmm. Maintenant, comment on peut bénéficier de ce programme-là s'il n'est pas offert dans notre école? Je m'adresse aux parents, grands-parents qui nous écoutent, qui se disent « ben ça pourrait être bien pour mon enfant ».
Moi, je suggérerais, et c'est un peu pourquoi on s'organise aussi, être très présent avec la Fédération des parents, des comités de parents d'école, les conseils d'établissement, par exemple, où les parents y participent, d'aller poser les questions pour que soit la directrice ou, entre autres, les enseignantes s'informent et qui nous téléphonent. Fait que donc, pour un parent, c'est d'aller à l'école puis dire « Écoutez, j'ai entendu parler d'un programme qui pourrait aider au niveau des stratégies d'adaptation. Je serais intéressée, je le sais c'est où, je sais c'est qui. » Et puis, d'offrir l'information. C'est très puissant quand ça vient des parents.
Ah, oui, je peux l'imaginer. Pour en savoir davantage, passeport, s'équiperpourlavie.ca. Lorraine Millette, vous êtes coordonnatrice des programmes au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie à l'UQAM. Merci beaucoup de votre passage en studio.
Merci.